おかしい、おかしい。
Sur nos antennes, c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kamara.
Bonsoir. Crise dans le secteur minier congolais, 300 000 emplois menacés au Katanga et 80% de comptoirs de diamants fermés au Kassai oriental. Comment en est-on arrivé là? Quelle stratégie pour relancer le secteur minier RDC? C'est le sujet unique de cette émission Dialogue entre Congolais. Nous en parlons avec notre premier invité, Dany Banza. Il est chef de bureau du service d'assistance et encadrement du Small Scale Mining, c'est la petite exploitation minière CESCAM, section de Kolwezi au Katanga. Simon Tumawaku, administrateur délégué de la société DRC Copper et Cobalt Project, c'est une joint venture réunissant la société Katanga Mining et la GKMI. Il est aussi ministre honoraire des mines et hydrocarbures, également vice-président national de la PEC en charge des mines. C'est François Zétillier, directeur général du bureau d'études miniers environmental dénommé, oui, environnemental dénommé Environmental Mining and Construction Services. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Crise dans le secteur minier congolais, 300 000 emplois menacés au Katanga et 80% de comptoirs de diamants fermés au Kassai oriental. Comment en est-on arrivé là? Évidemment, nous en parlons avec nos trois invités qui sont déjà là. Bonsoir, M. Simon Tomoko.
Bonsoir.
Bonsoir à Dany Banza et François Ntukuyé.
Voilà.
Bon, voilà. Donc, vous êtes tous en place, mais avant d'ouvrir le débat, sachez que le ministre provincial de Mino Katanga confirme l'information et pointe du doigt, notamment le prix des métaux sur le marché international. Et parmi les conséquences, Mumbagama cite le secteur d'investissement dans environ 90% des entreprises minières du Katanga, avec près de 300 000 emplois menacés. On écoute Mumbagama, ministre provincial de Mino Katanga, au téléphone de Kélin Kouté.
Les prix des métaux qui ont avoisiné pour les cuivres 8 000 $, aujourd'hui est descendu à 3 000. En termes de valeur, c'est une grande perte. C'est 5 000 $ de perdu. Et le cobalt qui avait atteint 50 $ la livre, aujourd'hui se marchande à 10 $ la livre. Donc ça fait 40 $ de perdu. Alors cela a une conséquence sur le coût de production. Du fait que le prix des métaux était très élevé, même les mines qui étaient moins riches ont été mises à l'exploitation. Mais avec le cours des métaux actuels, il n'est pas possible de continuer à exploiter des gisements qui ne sont pas très riches, parce que le coût est plus élevé que le prix. Alors cela a des conséquences. C'est que certaines sociétés ont fermé. Sur 77 unités de traitement, il y en a 45 qui ont fermé, 15 qui ont ralenti complètement leurs activités. Et cela, ça entraîne du licenciement massif des travailleurs, la suspension des sous-contrats, les non-paiements des taxes dues à l'État, la baisse de l'exportation des minéraux, notamment quand vous voyez au cours du mois de novembre, on n'a plus pratiquement pas exporté des minéraux. Ça a baissé totalement.
Simon Tomoko, c'est presque 90% des entreprises minières du Katanga qui sont frappées, dont une quarantaine qui ont pratiquement fermé. Est-ce que vous, en tant que responsable de ces entreprises minières au Katanga, est-ce que vous êtes surpris par cette crise?
Non, pas du tout. Tout le monde sait que nous sommes dans une crise financière internationale. Cette crise qui a commencé aux États-Unis par ce qu'on appelle la crise des subprimes et qui maintenant se répercute au niveau mondial et qui frappe normalement notre pays. Pourquoi cela frappe notre pays? Tout simplement parce que la plupart des investisseurs qui sont chez nous, qui sont venus chez nous, sont cotés à la bourse.
Et ça veut dire quoi pour ceux qui ne le comprennent pas?
En termes simples, c'est-à-dire en prenant des partenaires, les partenariats que la GKMI a signés avec certains investisseurs tels que Katanga Mining dans le cas ici, ou dans le cas du projet Tenke pour Mais, Freeport McMahon, ou Anvil Mining, toutes ces sociétés-là sont cotées dans les différentes bourses mondiales où ils arrivent à financer leurs projets au Congo. Et donc, étant donné qu'il y a eu rupture de confiance au niveau des banques, des financiers qui ne prêtent plus d'argent, donc ces sociétés-là ne sont plus en mesure de pouvoir récolter de l'argent dans les bourses pour pouvoir financer leurs projets. Et donc, certains projets sont à l'arrêt ou au ralenti, comme nous allons les développer un peu plus tard.
Oui. Alors, on va voir la réaction avec vous, Danny Banza. Qu'est-ce que vous pensez vous êtes d'accord avec Simon Toumaraku?
Tout à fait, je suis d'accord avec Simon Toumaraku. La crise financière qui est mondiale est en train d'affecter pratiquement l'économie de la province du Katanga, qui est essentiellement une économie minière. En fait, du fait qu'il n'y a plus la crise financière, du fait qu'elle est mondiale, c'est que les banques ne sont plus d'accord de pouvoir livrer de l'argent aux entreprises minières. Cela fait que, actuellement, dans le secteur minier au Katanga, dans la grande mine, tout comme dans la petite mine, nous ressentons cette crise qui se manifeste par les fermetures un peu en catastrophe des dépôts, notamment les dépôts d'achat des produits d'exploitation artisanale. Et nous constatons aussi que quand on ferme les dépôts, cela a comme conséquence que l'emploi pratiquement du personnel qui était dans ces dépôts est pratiquement perdu. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prévenir cette situation au niveau des entreprises minières du Katanga?
Vous savez, la crise a été tout à fait brusque. Donc, elle a surpris pratiquement tout à tout le monde. Le ministre pour l'État des Mines l'a dit. Donc, cette crise est accompagnée au fait de chute de l'AMD, c'est que bon, pour la plupart des compagnies minières, ça a été pratiquement une surprise. Donc, au fait, par rapport aux entreprises minières, c'est donc une situation qui n'est pas été prévue.
Ouais. Et François Zécouillé, votre avis là-dessus? François Zécouillé? Voilà, on a un problème avec François Zécouillé, Guy Maté, Pierrot et Lamégie et Magali vont s'atteler à l'avoir au niveau de la réalisation. Bien sûr, je reviens vers vous, Simon Toumaraku. En fait, c'est vrai qu'il y a le cuivre et le cobalt, mais la conséquence, ce sont les 300 000 emplois qui sont pratiquement menacés.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés au Katanga, et comme le ministre provincial l'a dit, il y a 45 unités de traitement sur le 72-73 qui ont pratiquement fermé. Et ça, c'est le travail du commun des mortels. Il y a les creuseurs qui alimentaient ces unités de traitement qui ne savent plus alimenter leurs produits de ces traitements. Et donc, ils n'ont plus de travail. Et qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Et donc, étant donné la crise, étant donné que les prix des matières premières ont complètement baissé et que ceux qui produisaient des matières premières non raffinées, qui avaient une certaine grande valeur et qui pouvaient compter sur cette valeur pour tenir, parce que c'est ça le problème, les grandes sociétés vont pouvoir tenir parce qu'ils ont l'économie d'échelle. On peut dépendre un moment pour cette période, mais ceux qui n'en ont pas vont devoir fermer, mettre la clé en opération, et c'est ce que nous constatons maintenant.
Oui. Et les 15, parce qu'il y a une quinzaine qui n'ont pas fermé, qui ont presque ralenti, qu'est-ce qui leur permet de résister encore?
Il faut distinguer en fait les entreprises de traitement, comme je vous l'ai dit, les 15 qui restent ont bénéficié pour le moment, on peut le mettre sur le compte d'économie d'échelle, donc ils produisent peut-être un produit plus raffiné, mais ce dont on doit parler, c'est plutôt les grandes sociétés minières, telles que qui sont en partenariat avec la GECAMINE.
Ce sont celles qui résistent encore,
mais effectivement, mais il y a un ralentissement de l'activité. Il y a certaines sociétés qui vont mettre du personnel en congé technique ou même pouvoir mettre les gens, pouvoir diminuer le nombre d'expatriés, etc. Et c'est là, ce sont des mesures qu'ils doivent prendre compte tenu de la situation actuelle pour pouvoir tenir pendant cette crise que nous espérons tous très courte, mais dont on ne sait pas quand est-ce qu'on va la se terminer.
Est-ce qu'au Katanga Mining, par exemple, vous êtes concerné, vous?
Nous sommes concernés par la crise. La crise, comme on le dit, la crise est mondiale. Et donc, nous, Katara Manning est coté à la Bourse de Toronto, et de ça, nous sommes en période de développement des mines, et nous avions besoin de capitaux pour pouvoir achever ce que nous avons commencé. Et donc, nous sommes frappés aussi, parce que nous n'avons plus de financement valable sur les marchés qu'on peut avoir tout de suite, qu'on pouvait avoir il y a plus de 6 mois. Mm. Et donc, nous sommes aussi confrontés à cela.
Oui. On va voir François Nzekouye, parce que la réalisation, on signale qu'il est maintenant en ligne. François Nzekouye, votre point de vue sur cette crise qui frappe le secteur minier, notamment au Katanga et au Kassai.
Oui, je vous remercie d'avoir de m'avoir invité en ligne dans cette émission. En fait, j'ai un raisonnement plutôt simpliste à déterminer. C'est que vous savez, un être humain, quand il se retrouve en situation de crise, qu'est-ce qu'il commence à éliminer dans sa vie? Finalement, les biens de luxe. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendeurs d'un certain nombre de biens qui, malheureusement, peuvent être catégorisés parmi les biens de luxe, dont les diamants, qui est un bijou que l'on porte et qui n'apporte pas nécessairement une valeur ajoutée à la vie de chaque jour. Et quand on supprime les bijoux, on se dit, écoute, je supprime aussi quelques voyages touristiques, et ce sont les avions qui sont concernés. Les matières premières pour fabriquer les avions, c'est les cobalt. Vous supprimez les possibilités d'acheter une nouvelle voiture, vous commencez à utiliser les transports en commun, et donc les cuivres qui interviennent dans la fabrication des véhicules en partie. Et donc voilà, de façon simpliste, comment est-ce qu'on peut expliquer la crise qui nous frappe.
Et concrètement maintenant, pour revenir effectivement au secteur minier.
Oui, en fait, ce que je disais, donc j'ai parlé du secteur minier indirectement. Mmh. C'est-à-dire que le secteur minier, il est dépendant de la consommation extérieure. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a la crise financière mondiale, il y a des personnes qui ne sont plus capables à financer un certain nombre d'activités, dont les activités boursières qui sont dépendantes du marché international, il s'est fait clairement qu'il y a absence de capitaux pour continuer à développer les projets miniers. Je vous dirais que dans la plupart des projets miniers, au Katanga particulièrement, ils étaient en phase de recherche ou de prospection. Très peu de projets étaient en phase d'exploitation. Donc, ce sont des projets qui avaient absolument besoin de beaucoup d'argent d'investissement. Mais étant donné qu'il y a une crise financière mondiale et que les financements qui étaient obtenus jusque-là pour la plupart des entreprises cotées en bourse, dont Anvil Mining qui vient de fermer, et Katanga Mining qui est en difficulté avec DCP, j'ai salué la présence de Simon Zumao que je connais très bien, toutes les entreprises là, c'était des entreprises qui étaient cotées en bourse et donc les capitaux venaient de la bourse mondiale. Et donc comme la plupart des bourses mondiales aujourd'hui sont en difficulté, dont la bourse la plus importante dans le domaine minier, la bourse de Toronto, il est évident qu'il y a des répercussions directes sur la production minière au niveau du Katanga et sur le revoi des projets miniers. Et donc, étant donné que les entreprises ne sont plus capables de couvrir les coûts de production et faire des bénéfices, logiquement, la plupart des entreprises se retrouvent en train de fermer.
Donc, c'est une situation logique qu'on ait ces entreprises minières du Katanga. Mais d'aucuns s'interrogent si l'État congolais n'avait pas pris de mesures pour prévenir, parce que Simon Tomahoko a dit.
Non, malheureusement, déjà, il y a beaucoup de questions sur lesquelles l'État congolais ne fait pas de prévisions. Mm. Et donc, encore moins un secteur comme celui-là où l'on croyait que l'argent viendrait de l'extérieur et l'État s'occuperait d'autres problèmes. Donc, l'État congolais n'a pas de prévisions. Vous avez remarqué que depuis que la crise mondiale est intervenue, il n'y a pas eu de déclaration quelconque, ni de notre ministre des Finances, ni du ministre de l'Économie, ni du gouverneur de la Banque centrale, pour nous dire quel est l'impact que la crise financière aura sur notre secteur. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité grave de nos autorités de prendre des mesures, mais je me demande quelles mesures prendront-ils. Mais moi, je me dis, un fait positif de cette crise, c'est qu'on va éliminer ce nombre d'aventuriers qui sont dans le secteur. Nous resterons avec un nombre d'entreprises assez importantes qui pourront mobiliser le peu d'argent qui reste dans les systèmes internationaux de financement minier et qui pourraient, à mon avis, engager un nombre de personnes quand la situation va tant soit peut se rétablir.
Oui, mais elles ne seront pas embauchées, les 300 000 personnes, quand même.
Non, je sais bien évidemment que la plupart des entreprises qui ont fermé sont des petites entreprises. Mmh. C'est vrai que les grandes entreprises sont frappées, mais la situation que je connais particulièrement très bien au Katanga, c'est la plupart des petites entreprises qui ont dû fermer. Et celle-là, à mon avis, ça va aller dans la clandestinité, dans les désordres.
Merci, François. Et puis, on va poursuivre cette émission. Il n'y a pas que l'exploitation du cuivre et cobalt du Katanga qui est frappé. La crise touche aussi le secteur du diamant. Au Katanga oriental, la localité de Bakwachimuna, située à 15 km au nord-ouest de Mbujimayi, se vide depuis plusieurs semaines de ses habitants. Cette localité est très connue pour son exploitation artisanale de diamants. Elle avait connu l'afflux important des personnes venues de plusieurs coins du pays, particulièrement des deux Kassai. Aujourd'hui, Bakwachimuna devient l'ombre d'elle-même. C'est ce que nous dit Julien Yamouni dans son reportage.
La première image qui frappe lorsqu'on arrive dans cette localité construite sur un plateau, c'est le nom impressionnant de maisons vides. Le trésor et autres négociants quittent la cité, tel cet homme, teint sombre, trésor de son état.
Le bon âge, le bon âge, le bon
âge, marche pas. Il faut tout simplement rentrer au bercail. Deuxième image forte, réduction drastique des activités minières. Trucs d'espèces sont présents dans les mini-marchés. Le chef de la localité affirme que la cité comptait près de 80 000 habitants. Kalila Kabilongo, chef de la localité.
C'est peut-être 50% qui sont partis. On passe ici, ceux qui sont venus, ce sont des gens qui viennent par-ci, par-là, qui sont venus ici seulement pour travailler dans des mines de diamants.
Parce que rien ne marche, les quelques négociants encore présents sur le lieu passent leur temps à tourner les pouces. La crise financière internationale frappe de plein fouet le marché du diamant.
C'est le gars, je pense que c'est le gars, c'est le gars.
Nous n'avons pas de choix. Depuis cet exode, les activités tournent au ralenti. Les boutiquiers, les propriétaires des ciné et autres restaurants n'ont pas échappé à la crise qui frappe la localité. Julien Yamouni, Mbujimayi, Radio Okapi.
Oui, Dani Banza, vous qui êtes chef de bureau du service d'assainissement et encadrement du Small Scale Mining, la petite exploitation minière, c'est SCAM, section de Kolwezi Katanga. Est-ce que c'est normal que le diamant aussi soit frappé, comme le cuivre et le cobalt?
Tout à fait normal. Ici, nous avions parlé de la crise qui est d'abord une crise financière.
Oui.
C'est-à-dire que lorsque les gens ne disposent pas des moyens pour acheter d'abord le cuivre, le cobalt ou le diamant, et donc logiquement, il n'y a pas assez de capitaux qui rentrent dans les carrières parce qu'il n'y a pas de négociants. Les négociants qui trouvent à vendre leurs diamants à l'extérieur du pays, en fait, connaissent des difficultés. Alors, en ce moment-là, donc, les négociants n'ont pas des moyens pour acheter au niveau des carrières, donc, il n'y a pas de négociants. La conséquence, c'est que, bon, en carrière, bon, les gens peuvent produire et ne savent pas vendre. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est que les diamants aussi, lui-même, est frappé par les cours de métaux, c'est que donc ça fait une logique que donc l'activité de diamant puisse aussi baisser sensiblement au niveau de la province du Kassai.
Oui. Est-ce que vous avez une idée justement de ces prix? La chute de ces prix, elle se présente comment? Oui, vous allez parler
Tout à fait, le ministre provincial, je peux peut-être parler plus sur le cuivre et le cobalt, parce que c'est le secteur dans lequel ils sont en train d'évoluer au plus.
Mm-hmm.
Donc le ministre provincial l'a bien dit, le métal cuivre s'est vendu à 8000 dollars il y a plus ou moins 3 mois, maintenant il se vend à 3000 dollars la tonne.
Oui.
Et le cobalt s'est vendu à plus ou moins 5000 dollars la livre, à plus de 100 dollars la livre, maintenant le cobalt est en train de se vendre à 10 dollars la livre. Donc vous voyez là que bon, c'est assez logique que le cours de métaux en soit finalement baissé, donc ça ne peut avoir que des conséquences assez néfaste par rapport à l'exploitation.
Oui, donc de 8000 dollars à 3000 dollars, la tonne de cuivre, c'est maintenant à coût, et de 100 dollars à 10 dollars, je n'ai pas très bien compris, c'est la limite ou la...
Oui, je vais donner des précisions.
Oui, c'est maintenant à coût.
Si on prend les cours des métaux tels que le cuivre et le cobalt au mois de juillet, le cobalt se vendait à exactement 94 000 dollars la tonne. Pour nous, pour une bonne référence, parce que nous ne sommes pas habitués avec ce qui est livre, etc.
Tout à fait, oui.
Donc, 94 000 dollars la tonne. Et aujourd'hui, au mois de décembre, le même cobalt se vend à 31 000 dollars la tonne.
Donc, vous voyez la un tiers, en fait.
Exactement, un tiers du prix.
Oui.
Et le cuivre se vendait à 8500 dollars la tonne. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le cuivre se vend à plus ou moins 3400 dollars la tonne. Mm-hmm. Donc, vous voyez une grande baisse des métaux. On ne peut pas produire plus pour mettre sur le marché parce que aussi les acheteurs, il n'y en a pas, ils n'ont pas de capital pour acheter. Mais je voulais rapidement revenir sur le diamant.
Oui.
Le phénomène du diamant est légèrement différent parce que le diamant en termes de cours n'a pas baissé. Ce qui fait la difficulté du diamant pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de diamants qui se fait d'ici à Kinshasa, c'est que les gens ne savent plus vendre, il n'y a plus d'acheteurs.
Pourquoi il n'y a plus d'acheteurs?
Notre marché, ceux qui nous achetaient, en fait, notre diamant était vendu la plupart du temps du côté de l'Inde. Et comme les Indiens, les acheteurs indiens
oui.
ne peuvent plus avoir accès aux banques pour avoir l'argent
oui.
ils ne savent plus acheter.
Oui.
Et donc, il y a très peu d'acheteurs. Donc, les prix de le cours du diamant a légèrement baissé, c'est vrai, mais ce n'est pas dans les proportions comme les autres métaux. Mais il y a trop de diamants sur le marché, il n'y a pas d'argent.
Et le prix baisse aussi, le diamant.
Évidemment, les gens vont...
C'est-à-dire que c'est un bon moment pour acheter autant et...
Effectivement, si vous devez offrir un cadeau à votre épouse, c'est le moment d'offrir du diamant parce que, à ce moment, vous pouvez
jeter la baisse.
Voilà.
On va poursuivre cette émission pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Crise dans le secteur minier congolais. 300 000 emplois menacés au Katanga et 80% de comptoirs de diamants fermés au Kasaï oriental. Quelle est la stratégie pour relancer le secteur minier en RDC? Nous en parlons dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78. Ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle stratégie pour relancer le secteur minier en RDC, secteur en crise, je vous l'ai dit, pour parer à la crise qui frappe ce secteur, le ministre des Mines du gouvernement central annonce une série de mesures. Martin Kabololou l'a dit ce mardi à Radio Okapi, ces mesures dites de sauvetage devraient alléger entre autres le coût de production de tous les exploitants miniers surpris par la chute des cours de métaux, mais également les redevances à payer. On écoute le ministre Martin Kabololou au téléphone, pardon, au micro de Jeff Murray.
Et nous avons pris des mesures telles que la réduction du coût de production de tous les miniers qui n'ont pas prévu cette chute. Nous avons pris un arrêté avec mon collègue des finances pour la réduction des droits et taxes dues à l'État. Il y a eu l'assouplissement des redevances à payer au moment du renouvellement des entités de traitement. Ces redevances, nous les avons pratiquement divisées par 10. Nous avons dû décider le déguerpissement de tous les services non concernés par le secteur de minier. Depuis le circuit de la production et de l'extraction des minerais jusqu'à l'exportation.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes mesures? Je commence par vous, Ndékouyé François.
Oui, en fait, ce sont des bonnes mesures qui auraient dû être prises beaucoup plus longtemps. Je me rappelle déjà à l'époque où le président M. Boulou avait multiplié par 10 ces taxes. Il y a eu des votes qui sont élevés pour lui faire comprendre que c'était des charges énormes dans le secteur minier et qui alourdissaient à son temps déjà le cours de cuivre où tous les métaux étaient au plus haut, les entreprises se plaignaient déjà. Donc les RDC aujourd'hui à ça où ils étaient il y a 2 ans n'aura pas à mon avis un impact sérieux sur la production. Donc nous estimons que les vraies mesures incitatives seraient que les gouvernements congolais mettent de l'argent dans le secteur minier. Ils ont déterminé dans les clauses ou les termes de référence de renouvellement de contrats miniers que les gouvernements congolais ne puissent plus avoir moins de 51% dans les capitaux des entreprises qui vont passer en phase d'exploitation. Je crois que c'est le moment où le gouvernement congolais doit mobiliser de l'argent et dire j'interviens davantage dans le secteur minier pour que le secteur minier profite beaucoup plus aux Congolais aux étrangers qui amènent leur argent et qui, bien évidemment, réclament plus de bénéfices. Mais les problèmes vont se poser, effectivement, si le gouvernement congolais n'a pas d'argent. Et donc, on se demande de quelle manière, par quel miracle le gouvernement va injecter de l'argent dans le secteur minier pour pouvoir le relancer. Mais nous disons, il faut espérer qu'il y ait une relance de l'activité de la consommation mondiale pour que le même mécanisme qui a entraîné la baisse des cours de cuivre ou des copages ou d'autres métaux puisse amener un relèvement des métaux au niveau international. Et ce sera le seul incitatif qui pourra amener le prix des métaux a augmenté chez nous, d'autant plus que nous ne pouvons pas compter sur l'intervention du gouvernement congolais.
Voilà. Banza Dani, je rappelle, vous êtes chef de bureau du service d'assistance et encadrement du Small Scale Mining, la petite exploitation minière, c'est SCAM, section de Kolwezi au Katanga. Vous venez de suivre François Ndekouye, lui il dit que les mesures que vient de prendre le gouvernement central ne vont pas avoir un grand impact au niveau de cette crise qui frappe les entreprises minières. Il faut que l'État injecte beaucoup d'argent dans le secteur. Vous partagez cet avis?
Bon, je ne partage pas tellement le point de vue de Gatier, mais je voudrais plutôt dire que les mesures qui ont été prises par le ministre, son excellence le ministre national, sont des mesures qui sont tout à fait irresponsables. En fait, le secteur minier devait être assaini, en tout cas, en toute sa profondeur. Ici, son excellence parle d'allègement des charges des opérateurs miniers. Donc, il parle de certaines taxes qui ont été complètement supprimées et qui pour juste essayer de contenir les quelques opérateurs miniers qui sont encore restés dans le secteur, qui pratiquement sont considérés comme des investisseurs de bonne foi. Parce qu'il faut le dire, actuellement, si on devait évoluer dans le système tel que il est en train d'évoluer, avec les charges qui reviennent à l'État rester pratiquement intactes, cela pouvait décourager davantage les opérateurs miniers qui pouvaient se voir que pratiquement les coûts fixes étaient restés les mêmes, donc les coûts de production restaient les mêmes, et que bon, les métaux sont en train de baisser, et quand on compare le coût de production par rapport pratiquement en recette, cela pouvait complètement décourager les opérateurs. Donc nous disons que les mesures qui ont été prises par le gouvernement national sont des mesures qui sont tout à fait responsables. Mais je voulais ajouter une chose par rapport à ça.
Évidemment, vous ne pouvez pas, non, je dis seulement que vous ne pouvez pas contredire le ministre, vous êtes en fait une structure du ministère des Mines, n'est-ce pas, Banza Dani?
Tout à fait, ce n'est pas que je ne peux pas contredire son excellence, mais je voudrais plutôt dire que les mesures qui ont été prises sont tout à fait responsables. Assainir le secteur minier, il y a deux services qui n'étaient pas liés au secteur minier, qui intervenaient dans le secteur minier. Donc ça a été pris à un certain moment comme tracasserie par rapport aux opérateurs miniers.
Là, vous parlez de quel service?
Là aussi,
vous parlez de quel service?
L'allègement des taxes de l'État,
oui.
Donc il favorise pratiquement les opérateurs miniers. Il se voit là que les charges sont en train de diminuer. Donc là, je ferais qu'appuyer les mesures qui ont été prises par le ministre national.
Oui.
Et c'est pratiquement aussi les démarches du gouvernement provincial.
Je lis très rapidement parce que j'ai l'un des arrêtés là, parmi les services autorisés à être présents dans la filière des produits miniers. Il y a l'administration des mines, le CEPCAM, votre structure. Il y a le centre d'évaluation, d'expertise et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, le CEEC, l'office des douanes et accises, OFIDA, l'OCC et l'administration du commerce extérieur. Quels sont les services qui ont été supprimés d'Alimanda?
Bon, en fait, c'était toute une série de services qui existaient dans le secteur minier. Bon, notamment, il y a des services qui étaient là comme l'ANR, la police de mines, les territoires, et tout ça. Ce sont là des services qui ont existé dans l'ancien système, qui ont été pratiquement élagués du circuit minier.
Merci. Simon Tomorrow.
Oui, les mesures qui sont prises par son excellence Monsieur le ministre des Mines sont des bonnes mesures. Mais il y a ces deux mesures de deux types. Il y a les mesures qui touchent les petites entreprises, les petites unités et les grandes. La plupart de ces mesures-là touchent les petites entreprises, les petites unités de traitement, et c'est au niveau des agréments. Donc c'est bon peut-être pour relancer ces petites entreprises pour qu'ils ne ferment pas. Au niveau des grandes, des majors comme les nôtres, nous saluons l'arrêté pour la fin des tracasseries, donc limiter les services qui sont là. Et
nous
attendons, voilà, exactement, nous attendons surtout l'application. parce que comme Danny Bandal a dit, il y avait la DGM, il y avait la police des mines et des tracatrices. Nous sommes dans une période où nous aimerions que les secteurs miniers doivent lancer l'économie, donc il faut faciliter l'investissement. Il faut choyer l'investisseur pour que justement ils viennent, ils créent l'emploi et ils commencent à travailler. C'est à ce moment-là, quand ils sont en production, à ce moment-là, l'État se retrouve. Tant que nous n'aurons pas 50, 60, 100 entreprises minières en production, nous ne verrons pas l'impact du secteur minier dans la vie économique de notre pays.
Oui, Simon, tout le monde en coup, là, c'est juste rappeler que vous êtes ministre honoraire des mines, hein, hydrocarbures, et administrateur délégué de Katanga Mining, vice-président national aussi de la PEC en charge des mines. Là, vous dites que les mesures prises par le ministre national des mines, Martin Kabololou, favorisent plus les petites entreprises. Est-ce que vous rejoignez François Ndekouye qui a dit qu'il faut que l'État congolais, le gouvernement, mettre de l'argent, beaucoup d'argent dans le secteur pour relancer les grandes entreprises comme les vôtres?
Pour les grandes entreprises, nous ne demandons pas à ce que l'État intervienne au niveau de l'argent.
On le voit à travers le monde, en Inde, des milliards de dollars.
Oui, bien sûr, nous connaissons l'état de notre pays. Mm. Nous connaissons notre budget actuel qui est dérisoire, qui est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Mm. Donc, ce n'est pas là que nous avons besoin de l'État. Au niveau des grandes entreprises, tout ce que nous voulons, c'est qu'on applique le code minier, qu'on élimine les tracasseries que nous connaissons.
Ça, c'est l'une
des décisions que le ministre a prises. Et donc, le milieu d'affaires soit un milieu sain. C'est important de donner la confiance aux investisseurs. Ceux qui vont faire l'effort d'aller prendre de l'argent pour pouvoir venir continuer l'investissement chez nous doivent se sentir à l'aise. Donc, il faut les mettre à l'aise pour qu'ils sentent que non, nous sommes dans un pays où nous sommes protégés, nous allons créer de l'emploi. Donc, nous allons faire de tout notre mieux pour que nous apportions de l'argent et investir dans le pays.
Voilà, nous allons prendre les premières réactions des auditeurs sur ce sujet. Il y a Kaozi Massimango qui nous écrit de Kalemie au Katanga. Lui pense que la crise dans le secteur minier doit interpeller les autorités du pays. Les autorités congolaises doivent développer d'autres secteurs tels que l'agriculture, la pêche et l'élevage qui sont très négligés. Docteur Pierre Kamba nous écrit depuis Kananga au Kasai Occidental. Il pense que pour mettre fin au désordre dans le secteur minier, il faut revisiter les contrats miniers et supprimer les tarifs miniers. Sinon, la RDC risque de connaître la situation du Zimbabwe avec des fermiers blancs, conclut Docteur Pierre Kamba. Et puis, Piana Kalala de Likasio Katanga, il faut que le gouvernement Mouzito revoie la baisse des taxes minières. Sinon, c'est le déluge, car la crise frappe déjà à nos portes. Et je crois que par rapport à Piana, la réponse est peut-être est déjà trouvée dans les arrêtés du ministre, n'est-ce pas, Ndekouye, François?
Oui, dans une mesure, effectivement. En fait, vous avez posé une question à laquelle j'ai répondu.
Allez-y.
Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour relancer les secteurs miniers.
Oui.
Je ne crois pas que le simple fait de baisser quelques redevances va avoir un temps, comme je viens de dire, M. Soubarafou. En fait, ce n'est que quelques entités de traitement. Mais les entités de traitement vont traiter quoi dès lors qu'ils ne savent pas vendre? Ça, en fait, le vrai problème. Les mines sont produites pour être vendues. Dès lors que les entreprises produisent à un coût qui ne permet pas de faire des bénéfices, il est clair qu'ils ne continueront pas à produire.
Donc le problème, c'est au niveau du coût de production.
Oui, bien évidemment. Parce que quand on vous dit que la tonne du cuivre était à 8 500 $ avant la crise et qu'elle est à 3 500 $ aujourd'hui ou à 3 000 $, les coûts de production aujourd'hui de la tonne de cuivre, et là encore, on vous parle en fait du prix du cuivre LME, donc qui est vendu au marché international.
Mmh.
À 8 500. Mmh. Donc aujourd'hui, en réalité, la tonne de cuivre vendue localement au Katanga est encore beaucoup moins chère. Aujourd'hui, on peut parler de 1000 ou 1 500 $ les cuivres blissaires qui est traité à 94-95%. Donc, les prix ont sensiblement baissé et ne permettent pas de faire des bénéfices. C'est la réalité.
Mmh. Mais il y a le président de la FECODI, Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant. Lui, il souhaite que la Banque Centrale mette en place des mécanismes pour relancer le secteur minier en recyclant le franc congolais. Il dit encore qu'elle doit aussi donner des moyens aux banques commerciales pour leur faciliter le travail.
C'est la réponse que tout le monde vous a donnée. Oui. Vous connaissez bien notre économie aujourd'hui. Il ne faut pas s'élever.
Oui.
Déjà, nous avons des problèmes pour financer l'arrangement de notre tronçon routier en pleine ville. Nous ne parlons même pas de routes agricoles ni d'autoroutes. Donc, si déjà nous pouvons recenser 200 trous sur le boulevard du 30 juin qui existent depuis une année qu'on ne pense pas réparer, on n'aura pas l'argent pour régler le secteur minier qui existe de millions et des milliards de dollars.
Oui, mais concrètement, hein, on va terminer par là sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour, comment dirais-je, réduire le coût de production au niveau des grandes entreprises minières?
Non, en fait, il y a des marges qui sont incompressibles. Ce qu'il faut plutôt faire en sorte, c'est qu'on puisse avoir des bons prix de vente. Ce n'est pas l'inverse qui importe. Parce que les machines modernes aujourd'hui ont un coût. La main d'œuvre a un coût.
Oui.
Et probablement la réduction de la part des taxes de l'État. Mais si vous dites que l'État ne perçoit plus de taxes, c'est que l'État n'a plus de moyens pour refinancer le secteur de l'économie. Donc, ce que je dis encore une fois, il faut simplement espérer que les cours mondiaux des métaux vont se réaliser,
oui.
Que les gens vont s'intéresser à investir, l'argent de l'extérieur va être réinvesti dans notre économie pour que le secteur se relance. Mais si nous devons compter sur l'économie nationale,
oui.
Il faudrait attendre des années pour arriver à relever le secteur minier.
C'est mon tour, finalement, vous, les entreprises minières de la ADC, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Des jeunes prières pour que ces prix baissent ou vous allez faire quoi?
Non, pas du tout. Je crois que, à ce qui concerne les grandes entreprises, cela dépend du produit que vous mettez sur le marché. C'est, quand vous vendez un produit de qualité, et comme l'a dit tout à l'heure François, quand vous vendez un produit minier, le cuivre, tel qu'on appelle le cours des grades A, LME, vous avez un prix, là vous êtes à 3 500 dollars la tonne. Mais si vous arrêtez au niveau du concentré de cuivre seulement, à ce moment-là, beaucoup de productions ne couvrent même pas le prix auquel vous allez vendre le produit. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va constater, c'est que les petites entreprises, en fait, pendant tant que le cours reste très bas, ne vont pas s'en sortir, ne vont pas pouvoir vendre leurs produits. Et c'est là où j'ai dit.
Et vous, les grandes entreprises?
Nous, les grandes entreprises, comme nous bénéficions de l'économie d'échelle, nous allons continuer à produire
au ralenti,
évidemment, parce qu'on ne peut pas mettre trop de cuivre sur le marché non plus, sinon vous, de nouveau vous allez les baisser.
En espérant que le prix.
En espérant que petit à petit, d'ici fin 2009-2010, on puisse avoir des cours qui vont commencer à remonter.
Donc il faut avoir la foi.
Il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut être optimiste. Mais comme a dit un de vos auditeurs, je crois qu'au niveau du gouvernement, nous devons penser plutôt à pousser l'agriculture. Notre pays est un pays agricole d'abord. Avant d'être un pays minier, c'est un pays agricole. Dans ce moment de crise, effectivement, il y a les avantages et les désavantages d'une crise. L'avantage que nous avons, nous, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est de pouvoir favoriser, relancer l'agriculture à grande échelle.
Oui. Dany Banza, une minute pour donner aussi votre avis. Hein. Vous avez suivi tous les souhaits des exploitants miniers. Il faut de l'argent pour soutenir ce secteur. L'État n'a pas suffisamment d'argent. Hein. C'est connu au niveau du trésor. Bon, c'est discutable aussi. Qu'est-ce que vous dites, Dany Banza?
En fait, on l'a dit, notre pays n'a pas assez de moyens pour faire cette politique-là qui est émise, mais plutôt, cette crise ici, c'est, en fait, doit interpeller l'État congolais, donc c'est, en fait, quelque part aussi une leçon pour l'État congolais. Vous savez que, on l'a dit par M. Toumaouk, que, bon, notre pays ne doit pas essentiellement être focalisé sur les ressources minières. Nous savons que, quelles que soient les conditions, les ressources minières sont des ressources qui sont tout à fait utilisables.
Ouais,
on doit penser, on doit penser, et à d'autres ressources, notamment les ressources agro-pastorales. On a parlé de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Donc, pour le moment, donc l'État congolais doit savoir préparer l'après-mine,
l'après-mine.
Parce que nous devons développer. Et ça peut être interpellé à toutes les compagnies minières qui sont dans la grande mine, tout comme dans la petite mine. Quand nous parlons de la petite mine ou de l'artisanat minier, donc ça veut dire que les coopératives minières qui doivent développer aussi le sens des secteurs, des autres secteurs, notamment les secteurs agro-pastoraux, donc qui peuvent être des secteurs à la langue qui vont sauver le pays, qui est tout à fait un pays à vocation minière.
Merci beaucoup, pourvu que le ministre de l'Agriculture vous entende. Nous recevons Cécile Poutou, c'est pour les réactions des auditeurs. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Jean-Claude. Kalamba de Lubumbashi au Katanga affirme qu'à travers cette crise, le gouvernement comprendra l'importance du secteur agricole. Ces derniers étaient oubliés alors qu'ils figurent parmi les mobiles du développement. Robert Baume de Bukavu Sud-Kivu pose la question de savoir à quoi est due exactement la crise dans les secteurs miniers, à l'épuisement des minerais ou à la rigueur de la loi vis-à-vis des exploitants miniers.
Je pense qu'il a suivi, hein, il voilà. A des arguments, c'est le prix au niveau mondial. Oui, on pense.
Où les Luca Félicien de Kikwit au Bandundu estiment que pour remédier à cette situation, le gouvernement doit lutter pour la baisse du taux des dollars. Jacques Nawes Katenk de Lubumbashi au Katanga pense que l'État congolais doit chercher une solution urgente à cette menace, sinon les banditismes et le taux de mortalité seront élevés, car même s'il faut faire le champ, dit-il, la récolte sera ultérieure. Enfin, Yannick depuis Kananga au Kasaï occidental, il pense que ce n'est pas seulement la crise financière ou les taxes qui sont à la base de la fermeture des entreprises minières. Mais aussi les mesures prises par les autorités qui possèdent elles-mêmes des mining afin d'avoir le monopole du marché.
Est-ce que vous êtes d'accord, Simon Tumoakou, avec ce que dit Yannick de Kananga, pardon, Kasaï occidental?
Non, pas du tout. Je crois que nous avons parlé en long en large de la crise. Ouais. Donc, il y a les cours de métaux. La crise n'a pas commencé en RDC, ça a commencé aux États-Unis.
Au niveau mondial.
Et ça s'est répercuté maintenant en Europe et en Asie. Mmh. Et donc, nous ne faisons que subir cela. Et nous devons prendre des mesures pour pouvoir contrôler ou amortir un peu le choc au niveau de notre pays. Et parmi les alternatives qu'on a proposées, il y a notamment l'agriculture et d'autres secteurs qui doivent être lancés rapidement pour que nous puissions survivre pendant cette période de crise.
Oui, là, vous avez répondu à Kalamba qui nous a écrit depuis Lubumbashi au Katanga pour ce qui est du secteur agricole. Robert Baromé a déjà une réponse et je crois que vous en avez, tout le monde l'a dit ici, que c'est le prix au niveau mondial de ces métaux qui est la base justement de la crise dans le secteur minier au Katanga. Et il y a cette proposition de Koulé Luka Félicien, lui qui plutôt plaide pour la baisse du taux du dollar. François Nzekouye. Ça peut résoudre quelque chose dans cette crise?
Non, baisse du taux du dollar.
Oui.
Je ne crois pas, parce que, comme je vous dis, le problème, c'est la vente de nos métaux, ils sont vendus en dollars ou en euros, ça se dépend des endroits. Mm. Donc c'est vrai, nous avons besoin d'une monnaie congolaise forte pour que le pouvoir d'achat de la population s'accroisse. Mais quand bien le pouvoir d'achat de la population congolaise s'accroisse, ce n'est pas la population congolaise qui est consommatrice principalement de nos métaux aujourd'hui. Nous ne transformons pas suffisamment nos métaux pour en avoir des produits finis qui soient consommés par les Congolais. Donc c'est un souhait qui est bon dans la situation générale de l'économie congolaise, mais qui n'a pas un impact direct sur l'évolution du secteur minier, à mon avis.
Mais puisqu'il y en a qui proposent, évidemment, l'agriculture, ce n'est pas pour aujourd'hui hein, qu'on va en développement de l'agriculture, je pense que c'est peut-être des solutions à moyen ou à long terme.
Hein, oui, moi je suis d'accord, je partage. En fait, moi je suis d'abord formation économie rurale et développement, donc l'agriculture c'est quelque chose de vraiment important. Mais il faut voir l'agriculture aussi dans l'aspect agroalimentaire. Il faut qu'on installe les usines de traitement, parce que du point de vue de production, nous avons quand même une production relativement grande dans les zones rurales. Mais encore faut-il que cette production soit transformée pour être confirmée à long terme. Faut-il qu'il y ait des voies de communication pour permettre à ce que la production qui est faite dans les milieux ruraux soit consommée dans les milieux urbains. Il y a tout un problématique. Hein, pour, si on veut dire qu'il faut relancer les terres agricoles, nous allons encore buter au même problème, le problème de financement de l'économie.
Oui,
donc ce sont des problèmes réels auxquels il faut s'attaquer. Ce n'est pas à dire que parce que nous sommes en crise aujourd'hui, il ne faut pas s'attaquer à ces problèmes-là. Mais je suis d'avis qu'au même moment où nous allons chercher des mécanismes pour relancer ce secteur minier, il faut développer d'autres secteurs, dont l'agriculture et le tourisme. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Kenya gagne le tiers de ses entrées par les recettes touristiques. Et le Kenya n'est pas plus nanti en termes de faune et de flore par rapport au Congo aujourd'hui. Donc il y a d'autres mécanismes qu'on peut développer pour avoir des richesses au Congo, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une volonté politique, il y ait une bonne gouvernance, il y ait une gestion saine des recettes de l'État et qu'on réinvestisse une bonne partie des recettes dans les secteurs économiques.
Voilà, on va terminer par Banza Dani, vous qui représentez un peu le gouvernement dans cette émission. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à la bonne gouvernance, parce que l'État n'a pas suffisamment d'argent dans le trésor et qu'il faut déjà ce qui est là bien le gérer, n'est-ce pas, Dani?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait logique et normal. Donc, vous savez que notre État est inscrit dans le programme de l'ICIE. Donc, pratiquement, la bonne gouvernance, la transparence doit animer tout les agents de l'État. C'est pour essayer de renflouer les pieds de l'État, en fait, de permettre à l'État de faire sa politique. Donc, je pense que mon interlocuteur de tout à l'heure a tout à fait raison.
A tout à fait raison. Voilà, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Nous remercions évidemment nos invités, vous trois, Simon Toumawaku, Dani Banza et François Ndekouye. Willem Lungamba était à la mise en onde, réalisation de Guy Maté, Claude Kianza, Tissim Poutou Kelly et Nkoute, notre stagiaire Magali Kabale-Banza. Leur nom, Jean-Claude Kamanga, je vous dis merci de rester fidèle à Radio Okapi.
Okapi, okapi.